Il était officier de la marine, il a exploré les océans, il portait un fameux bonnet rouge et était surnommé parfois le Pacha. L'aurez-vous reconnu ?
Au cours d'une cérémonie amicale au musée de la marine, une épée de cristal m'est remise solennellement par Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française. La transparence de ma nouvelle arme est pour moi un symbole du combat pour l'environnement qui doit rester crédible pour tous. Mon élection à l'Académie française souligne pour moi la nécessité d'embarquer pour le futur sans rompre avec nos traditions et notre passé.
Immortel, commandant Cousteau, il faut dire qu'il a œuvré à sa postérité, figure médiatique en son temps, immortel aussi depuis son entrée à l'Académie française en 1989. Alors que reste-t-il aujourd'hui de son combat pour l'environnement ? A-t-il ou avait-il vu juste ? Il n'y a pas de pionnier sans erreur, rappelait-il parfois. Invité la petite fille de l'explorateur Jacques-Yves Cousteau dans Le Monde après mon grand-père qui paraît chez Fayard, la documentariste Céline Cousteau, née elle en 72, revient sur l'héritage laissé par son grand-père et retrace à travers cette figure des années 50 jusqu'aux années 90, cette figure d'un demi-siècle de combat pour la préservation de l'environnement, ce que peut être cet héritage. On va le mettre en balance avec vous. Bonjour Céline Cousteau.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Quel Cousteau êtes-vous ?
Bonne question. Je pense que je suis une Cousteau, mais je pense qu'il ne faut pas être Cousteau pour mener ce combat. C'est un héritage que je porte avec fierté, mais que je partage avec le monde entier. Je pense que chaque personne qui a reçu une inspiration, un moment, une envie à travers l'œuvre de mon grand-père, porte aussi cet héritage.
Ce combat, vous le définissez comment ?
Pour moi, c'est premièrement un combat humain. C'est la survie de l'être humain. C'est pour nous de se dire qu'on est complètement lié avec l'environnement, qu'il n'y a pas de « eux » et « nous », il n'y a pas d'environnement séparé de l'être humain. Et c'est vraiment de porter conscience, peut-être, de se dire qu'il faut que nous, on s'adapte et pas le contraire.
Il n'y a pas la terre ferme et l'océan, il y a une planète, une terre. Il y a quand même des sensations, des images, des souvenirs qui font que vous êtes une Cousteau. Alors une Cousteau comme les autres, ça c'est ce qu'on va tenter aussi de définir ensemble. Mais vous avez grandi dans l'ombre ou dans la lumière de cette figure qu'était le commandant Cousteau au milieu des histoires et des récits de ses exploits. D'ailleurs, vous ouvrez votre récit, Le Monde après mon grand-père, sur une expédition familiale qui va durer 18 mois. L'Amazonie, on est en 1982. Il y avait votre père, Jean-Michel, votre grand-père, ailleurs, Jacques-Yves. Vous avez 9 ans et vous écrivez « La jungle était entrée en moi ». On écoute un extrait de cette expédition.
Messager des dieux péruviens, le condor survole des sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Le rio Apurimac, source principale de l'Amazone, dégringole de ses hauteurs. Il a creusé un canyon au rapide si turbulent qu'aucun navigateur n'en est jamais sorti vivant.
Tu vois, de ces glaciers, là, se descend jusque dans l'Apurimac.
Jean-Michel et Dominique Sumian ont l'intention de suivre l'Apurimac depuis le point de fonte des eaux.
Ces glaciers alimentent la rivière.
Les eaux qui donnent naissance au fleuve boueux qu'est l'Amazone sont ici pures comme le cristal. Le scientifique de l'équipe, Richard Murphy, découvre qu'elle regorge de vie microscopique. Les hommes doivent porter leur embarcation jusqu'à ce que les rapides deviennent navigables. Ils ont l'intention de descendre jusqu'à l'entrée d'un canyon infranchissable. Au-delà, les grandes parois montagneuses piégeraient sur plus de 100 km tout intrus qui se risquerait dans ces eaux furieuses. L'équipe de Jean-Michel en devine les périls. Des chutes de pierres peuvent bloquer le parcours. Et les rapides y sont parfois de véritables cascades.
Jacques-Yves, c'est le grand-père, le vôtre, Céline Cousteau, et Jean-Michel, c'est votre père. En aparté, le monde a changé depuis le commandant Cousteau, depuis votre grand-père, mais le documentaire aussi. Cette patte si particulière de cette collection de films Cousteau, vous pouvez la décrire, cette musique, cette manière de raconter, cette mise en récit du monde.
Justement, en écoutant cet extrait, je suis en train de sourire parce que, bon, premièrement, Il y a la voix de personnes familières, mon père, il y a Dominique Sumian, bien sûr mon grand-père, hein, que, dont la voix était peut-être plus connue que d'autres. Mais voilà, c'est un sentiment, c'est une nostalgie, je pense aussi, qui existe. Ça, on me le raconte aussi en dehors de moi et mes sentiments à moi. Moi, ce qui me donne de l'espoir en écoutant ça, c'est de se dire, voilà, ça a existé, on évolue, le documentaire a changé, on ne tourne pas de la même façon, les équipes sont plus petites, on part moins longtemps, on est plus efficace, on va dire, quelque part. Mais est-ce qu'en étant plus efficace, on passe pas à côté de quelque chose, parce que justement, on est toujours trop précipité dans notre façon de faire.
Vous l'avez suivi comment, vous, quand vous étiez petite, votre grand-père? Du coup, c'était des soirées devant la télé, à le regarder voyager?
Même pas, non. C'était plutôt des passages dans le bureau, dans la salle de montage, avoir des petits aperçus de films qui sont restés dans les documentaires ou qui sont restés par terre à cette époque-là. Donc c'était vraiment à travers des récits de ma mère qui, en rentrant d'expédition en tant que photographe, me montrait des photos ou me racontait ses histoires à elle. C'était des moments, oui, passés à aussi écouter les adultes parler de leur expédition sans que nécessairement ce soit pour nous. Donc j'ai l'impression de l'avoir toujours eu à côté de moi sans que ce soit quelque chose vraiment de conscient.
Alors il a mis ces images en partage. Qui était-il? C'était un explorateur qui est devenu petit à petit, et vous montrez bien l'évolution de cette sensibilité, plutôt un défenseur de la planète. Mais vous dites, Cousteau n'est pas né écologique.
Je pense que c'est important de le souligner que mon grand-père, comme tout le monde, a fait des erreurs, il les a assumées et il a évolué, se rendant compte que ce qu'il faisait, c'était il témoignait, il explorait, il emmenait ses belles images, mais à la fin de sa vie, il réalisait, mais attendez, il faut qu'on protège. Notre rôle, c'est de protéger. Et il est devenu écologiste au fil du temps, et je pense qu'on peut tous le devenir. C'est peut-être ça aussi un espoir que j'ai, moi, c'est de me dire, on n'est pas nécessairement tous combattants. Je ne demande pas à ce que tout le monde fasse la même chose que je fais ou qu'on fait sur le terrain pour défendre les peuples ou pour défendre l'environnement. Mais on a tous un rôle à jouer dans l'écologie. Et j'espère pouvoir justement inspirer en disant, voilà, il y a de l'espoir, mais il y a urgence.
Vous êtes militante écologiste, vous appartenez à une organisation, une association, une ONG particulière?
Non, je suis indépendante et je m'attache à beaucoup de causes. Donc pour moi, des fois, c'est un peu fatigant parce que je me laisse emballer par beaucoup d'énergie des autres. Je pense que j'ai une capacité justement d'offrir un plateau, d'offrir une... d'être un pont, peut-être, un catalyseur pour partager l'œuvre des autres, le combat des autres. Et je ressens l'urgence en moi.
Alors, vous parliez d'héritage, vous l'évoquiez, il y a eu des critiques, du bon et du moins bon. Et vous faites aussi la part des choses dans ce livre-récit, Le monde après mon grand-père, Céline Cousteau. On va commencer par le moins bon, comme ça après on pourra aussi revenir sur ces faits d'armes, parce que ils sont aussi restés comme tels. Le monde du silence, c'est le film qu'il a réalisé avec Louis Malle, qui a été Palme d'Or à Cannes en 56, qui a été oscarisé l'année d'après. Un film biopic de Jérôme Salle, L'Odyssée, montre déjà un peu ses zones d'ombre. Et récemment, il y a quelques mois, 2-3 ans, une chronique de Gérard Mordillat sur le site de La Bastille, j'y suis, est allée rentrer assez fort dans ce film, hein, démontant aussi le mythe, en montrant les faiblesses de ce reportage, notre absence de sensibilité face à certaines images, et notamment sur les destructions de la barrière de corail qui avait été menée par le commandant Cousteau et ses équipes à ce moment-là. On est dans les années 50, hein, sur son usage aussi de la dynamite pour recenser les espèces vivantes, tuant au passage pas mal de poissons, ou encore la mise à mort d'un jeune cachalot ou le massacre des requins. 50 millions, paraît-il, de spectateurs devant ce film qui a continué à tourner pendant des années. Les premières critiques, elles arrivent un peu plus tard, une dizaine d'années après. Et en 93, Jacques-Yves Cousteau revenait sur ses critiques dans un entretien aux côtés de Louis Malle.
Enfin, ça, c'est une des grandes séquences du film. C'est arrivé par hasard dans l'océan Indien, là, le cachalot, le bébé cachalot qui se prend dans l'hélice et les autres cachalots qui l'attendent, qui tournent autour et qui finalement... Et puis les requins qui montent. Ça, c'était en plein milieu de l'océan Indien. Très loin, on était vraiment perdus en... au milieu de l'océan Indien.
C'est une séquence qui a attiré des critiques.
Oui.
Après coup. Hein, sur le moment, non. Mais 10 ans après, elle dit, pourquoi si vous êtes acharné sur ces pauvres requins? Bon, à l'époque, je vous jure qu'on n'avait pas de pitié pour les requins. C'est venu, après, c'est l'écologie qui a tout déclenché.
Aujourd'hui, avec vos yeux de 2020, Céline Cousteau, quand vous revoyez ce film, Le Monde du Silence, est-ce que vous voyez aussi tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on n'a pas vu à l'époque?
Ben, je pense que, premièrement, ce que je vois, c'est une évolution. Et il le dit. Et une acceptation de ses défauts. De dire, on a fait des erreurs. On ne les a pas enlevées du film. On les laisse parce que c'était une époque, c'était les années 50. On savait pas grand-chose sur l'écologie. C'était, voilà, comme vous dites, des années après, enfin, dans les années 60, 70, où on a commencé vraiment à prendre conscience.
Oui, parce que le film a été rediffusé en 92 à la télé, et le commandant Cousteau fait le choix de ne pas couper les images, notamment du massacre des requins, qu'on lui propose d'enlever.
Ouais, je pense que c'est un bon choix. Parce qu'il faut mettre les choses dans son contexte et de se dire, voilà, on a la capacité de changer, on a la capacité de comprendre et d'adapter son comportement. Donc si lui, il a été capable de le faire et il a accepté les critiques et il n'a pas essayé de se cacher, pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas?
Mais ça veut dire que lui-même a changé? C'est intéressant, par exemple, à la fin de cet extrait, sa manière de parler de l'écologie. Mmh. C'est l'écologie qui a tout déclenché. Mmh. Il en parle presque comme un combat qui lui serait étranger alors qu'on le rattache à ce combat-là.
Oui. Ben on le rattache parce que c'est nos souvenirs, c'était la fin de sa vie, les générations futures, en 92 à Rio. Je pense qu'on a tous ces souvenirs-là et on se dit il a toujours été comme ça, mais non, il a changé.
Ça veut dire quoi dans sa bouche? C'est l'écologie qui a tout déclenché.
Pour lui, l'écologie a déclenché sa conscience, l'écologie a déclenché, je pense que c'est son envie d'être responsable, son envie de sensibiliser le public, de se servir de sa plateforme justement pour éduquer le public. Il l'a fait à travers ses documentaires vers la fin de sa vie. Et je pense qu'il a été vraiment... je pense qu'il est parti quand même vraiment concerné pour nous.
C'était une personne, un personnage ambigu?
Ambigu, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que c'était un personnage qui, c'est quelqu'un de très fort. Il avait énormément d'idées. Il voulait partir voir le monde, explorer, et il allait le faire. Je pense que toute personne avec des idées, des grandes idées comme ça, il s'entoure d'autres qui vont lui permettre d'y arriver. Et lui, c'était un don qu'il avait. C'était un rêveur. Mais il savait qu'il avait besoin d'un scientifique, d'un ingénieur, de tout son équipage et de sa famille.
J'en reviens à l'Amazonie, votre première expédition familiale, 82. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous en retenez de cette expédition-là?
Alors en 82, j'avais 9 ans. Mes souvenirs sont vraiment des sensations, c'est des odeurs, c'est du ressenti, c'est marcher pieds nus dans le sable avec des petites grenouilles tout autour. C'est de rentrer dans la forêt et sentir cette humidité, de regarder autour de moi, de me sentir vraiment petite vis-à-vis cette jungle qui complètement m'entourait, de regarder dans les arbres et essayer de trouver des animaux. C'était un monde fascinant, on a l'impression d'être dans un rêve.
Et vos souvenirs sont alimentés, on l'imagine aussi, par le récit de cette expédition que vous avez pu ou dû en avoir, l'Amazonie. Quelle place dans cette galaxie d'exploration, de voyage, de combat mené aussi par votre grand-père?
Je pense que l'Amazonie, si l'écologie a tout déclenché pour mon grand-père, l'Amazonie, ça a vraiment enraciné quelque chose en moi. Et c'est un contexte qui a fait naître l'envie d'en faire plus. Je ne le savais pas à 9 ans. Hein. On va pas dire qu'à 9 ans, on sait qu'on va mener un grand combat.
Mais pour lui, c'était quoi le combat en Amazonie? Qu'est-ce qu'il y avait d'abord pour comprendre ce que ça incarnait pour lui?
Alors, à cette époque-là, dans les années 80, c'était plutôt exploré. Parce qu'il y avait peu d'informations sur les peuples. Il y avait vraiment pas de grandes expéditions qui avaient été filmées et rapportées en documentaire. Donc, à cette époque-là, c'était exploré pour essayer de voir et comprendre. On n'en est plus là, maintenant c'est protégé.
25 ans après cette première expédition en Amazonie, vous y êtes retourné,
oui.
Plus précisément en territoire Matisse. Quels combats sont menés là-bas par les peuples qui y vivent?
Les combats sont nombreux et on le voit maintenant dans les nouvelles. Mais quand je suis arrivée là-bas, donc 25 ans après, en 2007, c'était surtout les problèmes de santé qui m'ont choquée.
La situation s'est détériorée en 25 ans ?
Oui. Oui. Là, ils ont entre 50 et 80% d'hépatite ABC et Delta. Et chose que je ne comprenais pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais l'histoire se répète. Parce que bon, c'était dans le 16e siècle où les Européens sont arrivés là-bas, ils ont tout décimé. Et on est en train de le faire encore maintenant avec le Covid. Ils font face aussi à énormément de déforestation, de menaces par la pêche et la chasse illégale, les mines d'or et les narcotrafiquants. Tout ça entoure leur territoire.
Vous mettez une phrase en exergue de ce livre du président brésilien actuel, Jair Bolsonaro. Si je deviens président, il n'y aura plus un centimètre de terre indigène. C'est étrange d'ailleurs de placer ce témoignage, ce livre sous récit, sous cette étoile-là.
J'ai mis ça au début parce que je pense que premièrement, c'est une phrase qui est très forte et très violente pour moi. Parce que ça démontre aussi l'urgence. C'est aussi au cœur, moi, de mon travail en Amazonie. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bolsonaro, il a été ouvert dans son expression, mais c'est un problème qui existe depuis très longtemps.
Quand vous êtes là-bas, vous rencontrez un homme, Beto Marubo, qui va vous dire cette chose. Un homme de la jungle pourra s'adapter à la ville, mais un homme de la ville mourra dans la jungle parce qu'il ne saura pas comment survivre. Nous nous pensons invincibles parce que nous avons un travail, de l'argent, du pouvoir, à peu près tout ce que nous voulons. En réalité, nous sommes fragiles, dépendants, et me le rappeler tous les jours, m'aide simplement à prendre conscience de ce que je suis, à mettre plus de conscience dans ce que je fais. Pourquoi cette phrase-là vous revient à ce moment-là en tête ?
Ben, je pense que c'est voilà quand je regarde moi dans la ville, je me dis on est fragile, on est vulnérable, on ne sait pas d'où vient notre nourriture. Si les camions s'arrêtent, on n'est pas ravitaillé. Et que dans la jungle, si on sait y vivre, si on sait survivre, on trouvera toujours de quoi se nourrir, on trouvera toujours de l'eau, et on se bâtirait une petite maison. Je pense que cette vulnérabilité, moi j'ai besoin de la ressentir de temps en temps. Mais je la ressens aussi quand je pars dans la jungle. Je ressens ce contraste quand je suis là-bas, de me dire je suis petite, il ne faut pas l'oublier. Et je sais pourquoi je me bats, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait partie d'un tout. Et ça me le rappelle, ça.
Autre territoire important pour votre grand-père, ce sera l'Antarctique. Il a notamment permis sa sanctuarisation aux côtés de Greenpeace. Il a lancé cette vaste campagne de sensibilisation en 90 avec une pétition mondiale contre l'exploitation minière. Qu'est-ce que ce territoire-là incarne pour lui à ce moment-là ? Quel risque, quel danger voit-il déjà pointé ?
Je pense que le danger qu'il voit déjà, c'est celui qui a atteint le reste de la planète. L'Antarctique a été protégé parce que c'est lointain, parce que c'est un climat et un écosystème et un endroit difficile d'accès. Mais je pense qu'il voyait venir ce qui pourrait venir, c'est que justement, on est tellement, il y a tellement une nécessité de ressources qu'on va chercher au plus loin. Et en Antarctique, ça serait le désastre.
Il y part avec une équipe ?
Il est parti avec la Calypso, oui.
La Calypso, c'était son bateau.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et il est où ce bateau d'ailleurs aujourd'hui ?
Je pense qu'il est en Turquie.
En Turquie ? Démonté ? En train de rouiller ?
Je pense qu'il a déjà été démonté il y a un moment, oui.
Il y en a qui se sont battus ou qui ont demandé à ce que la Calypso soit sauvegardée, préservée au titre de notre patrimoine national, parce que ce bateau a aussi une histoire. Donc juste pour en revenir sur l'Antarctique, il part là-bas, il savait s'entourer, disiez-vous tout à l'heure, de scientifiques aussi, toujours. C'est-à-dire que c'était pour vous c'était un officier de la marine, donc quand même d'abord aussi il y avait cette stature militaire, ce côté explorateur, mais en plus il voulait prouver ce qu'il observait. Il a cherché à appuyer ses dires avec des outils scientifiques.
Oui, et c'est cet art de pouvoir bien s'entourer avec des spécialistes qui est très important. Pareil que pour faire des documentaires. Je vois ça comme un iceberg. C'est qu'en haut, il y a la personne qui est connue. Il y a celui à qui on parle, qui est invité sur les plateaux radio, les plateaux télé. Mais derrière tout ça, il y a toute une équipe, que ce soit la famille ou autre. Ces gens lui ont permis d'exister comme il l'a fait. Ils lui ont permis de rêver, d'aller explorer. Les scientifiques, c'était nécessaire. Parce que juste explorer pour explorer, moi, j'y vois pas de sens. Si c'est aller quelque part pour ramener des images et inspirer, oui. Si c'est aller quelque part pour explorer, il y a quelque part une part d'égoïsme dedans. Et je pense que ça, il l'avait compris.
Mais il avait aussi une part d'égoïsme. Et vous le dites, peut-être pour aller si loin, si longtemps, il faut être quand même assez égoïste. Il s'est détaché de sa famille. Ce qu'il voyait comme sa mission était pour lui sa motivation première dans la vie aussi. Il a quand même incarné ce combat, laissant un peu dans l'ombre ceux qui l'entouraient. Mais c'est peut-être ça, être une figure médiatique. Il en a joué. Il y a cette reconnaissance aussi officielle qu'il a recherchée et qu'il a probablement en grande partie obtenue avec cette entrée à l'Académie française. En 1992, il est l'invité officiel de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement de Rio de Janeiro.
Jacques-Yves Cousteau devient le héros mondial de l'environnement. Au sommet de la Terre à Rio, on l'appelle Capitaine Planète.
Si il y avait un vrai Capitaine Planète, il devrait être Capitaine Cousteau.
Les présidents du monde entier se pressent à ses côtés.
Bonjour, président. Bravo pour votre discours.
92, Captain Planet, le seul civil à côté de tous les chefs d'État sur la photo de famille à la fin. Comme un chef d'État, mais plus qu'un chef d'État, une conscience mondiale.
Comment en est-il arrivé là? Comment il est devenu Captain Planet, aux yeux aussi des officiels de ce monde?
Je pense premièrement à travers tous ces documentaires, il a fait connaître le monde et la planète, et il a été ouvert de parler justement de cette conscience de l'écologie. Après, comment il est arrivé là plus qu'une autre personne, je pense que c'est un petit peu aussi l'effet célébrité, c'est qu'on choisit un porte-parole. Mais je pense que mon grand-père, il avait vraiment cette capacité de charmer tout le monde. Et on voulait l'entendre, on voulait l'écouter.
Qu'est-ce qu'il va dire dans ce discours à Rio qui va marquer les consciences?
Je crois qu'il a été très ferme, mon grand-père. Ça a été un de ses points forts. Alors on le critique parce qu'il a été dur, parce qu'il a choisi son travail au-delà de sa famille. Mais s'il l'avait pas fait, on n'en serait pas là, en train d'en parler aujourd'hui. Et il avait cette capacité d'être présent et d'être ferme. Et je pense qu'il faut.
Il faut l'être.
Il faut l'être.
Et pourtant, cet appel, il est resté vain. Rio, ça n'a pas été un tournant, comme beaucoup l'ont escompté.
Mais on a beaucoup d'espoir. Il faut regarder ce qui s'est passé à Paris aussi. On se dit, on a 30 ans pour tout changer. Ben, on n'en est pas loin. Et moi, j'ai pas la réponse parfaite pour dire qu'est-ce qu'il va falloir dire ou faire pour qu'on prenne tous conscience que le futur de cette planète, c'est la nôtre. La survie, c'est pas juste des espèces, c'est la nôtre. Dans mon livre, ce que j'espère pouvoir partager, que le public comprenne, c'est que ce combat, il est à nous tous. Et je ne peux pas le faire toute seule. Et mon grand-père non plus.
Vous dites d'ailleurs en ouvrant ce livre que vous avez souhaité l'écrire parce qu'il n'y a plus le temps. Et ça, c'est déjà ce qu'on disait en 92 à Rio, non? C'est déjà ce que disait aussi
le
commandant Cousteau
ça,
avant
le désespoir,
quand il était
un petit peu.
En Antarctique.
Ouais. Oui, mais il y a ce côté de se dire, on a répété, est-ce qu'on va écouter cette fois? Je pense que ce qui est incroyable maintenant, c'est grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, la prochaine génération, maintenant, les enfants ont conscience, ils en parlent, ils sont dans la rue et ils demandent la responsabilité. Je pense que on est à une autre époque, mais on est dans l'état d'urgence. J'arrêterai pas de me battre pour protéger cette planète, pour protéger l'environnement, parce que j'ai un fils, parce que je pense au futur, et que c'est important pour nous tous de le faire. Maintenant, ce discours est aussi un discours de privilégié. Parce que j'ai le choix de manger bio, j'ai le choix de l'éducation, j'ai la capacité de pouvoir parler au public. Donc déjà, je me dis, il y a quand même une différence entre ceux qui peuvent faire un choix de consommation qui est plus équitable, qui est plus durable, et ceux qui sont en mode survie. Ceux qui sont en mode survie, il ne faut pas leur en demander plus. Donc ceux qui sont, qui ont la capacité de faire des choix et de changer, je pense qu'on doit.
Cette prise de conscience, vous la racontez pour vous, c'est lorsque vous réalisez un voyage, une expédition en Patagonie. Vous choisissez de retourner là-bas parce que quand vous êtes né, c'est là que votre grand-père était à ce moment-là. Vous vous dites, la vraie prise de conscience, c'est qu'il ne suffit pas de voyager, d'aller voir, d'explorer, il faut agir maintenant. Ce voyage, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir principal ?
Premièrement, la Patagonie, c'est un écosystème absolument incroyable. C'est rude, c'est dur, il y a le vent, il y a le froid. Quelque part, la vie nous fouette dessus. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce côté, encore une fois, je me répète, mais ce côté d'être petite face à la nature. C'était très symbolique de partir là-bas, parce que mon grand-père y était en 72, l'année de ma naissance, comme vous avez dit. J'ai eu une attache au Chili depuis assez longtemps, parce que j'ai fait 12 épisodes pour la télévision chilienne. Mais c'était pas que ce moment-là qui m'a donné une prise de conscience. C'était vraiment une accumulation de moments vécus avec des peuples en Amazonie, vécus avec une baleine qui me regardait dans les yeux et j'ai l'impression d'exister tout d'un coup. C'est dur de dire que c'est juste un moment qui a créé qui je suis. C'est tout au long de ma vie que ça a été comme ça.
Ce qui a vraiment changé depuis votre grand-père et son combat, ce qui a vraiment changé, est-ce que c'est pas cette nécessité aujourd'hui que beaucoup perçoivent et défendent de recréer des liens avec la nature, de recréer des liens avec les autres formes de vivant? Et ça, c'était pas vraiment un combat que portait votre grand-père à l'époque, hein.
Non, je pense que ça, c'est justement, on a une sensibilisation maintenant de se dire, il y a un lien plus au-delà de juste l'écologie, de dire il faut protéger la nature pour la nature. Nous sommes une créature. On est un mammifère, une espèce sur cette planète. Nous avons un lien avec les autres espèces. J'ai cité cet exemple où la baleine m'a regardée, j'avais l'impression d'exister tout d'un coup. Je pense que si vraiment on prend le temps de marcher pieds nus dans l'herbe, quitte à ce que ce soit dans un parc à Paris, il y a une sensation et une énergie qui se ressent. Alors ça, c'est peut-être plus au-delà que le public voudrait comprendre ou entendre, mais je pense que c'est important.
On parlait à l'instant du monde du silence, le film réalisé par votre grand-père, le commandant Cousteau, avec Louis Malle. On parlait des critiques qu'il a pu susciter par la suite. Et c'est intéressant, dans les années 90, une journaliste de Libération écrit « Les enfants de 56 rêvaient devant ce film, ceux de 1995 sont scandalisés ». Ce qui montre qu'en 40 ans, quand même, nos regards ont mûri, ont aussi été nourris de tout ce qu'on a pu apprendre, de voir que ce qui est choquant aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Ça montre qu'une sorte de droit d'inventaire a pu être exercé. Le monde qu'a découvert mon grand-père est en train de mourir. Ce sont vos premiers mots dans ce livre, Céline Cousteau. Que retenir de lui aujourd'hui? On a commencé à l'évoquer. Vous êtes de la troisième génération, 1991-2020. Le commandant Cousteau parle aux enfants et les invite à agir. 2020, c'est Greta Thunberg qui se demande ce qu'elle dira à ses enfants, à elle.
Comment pouvons-nous faire en tant qu'enfants pour arrêter la pollution pétrolière, par exemple dans le Golfe ou dans la Méditerranée?
Eh bien, c'est certain que c'est plus difficile pour les enfants que pour les adultes de faire quelque chose. Mais ce que vous pouvez faire, vous, les mômes, c'est d'asticoter vos parents pour qu'ils agissent déjà, et vos professeurs, de façon à ce qu'il y ait une espèce de levée de bouclier pour empêcher ces destructions.
The year 2078, I will celebrate my 75th birthday.
En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant, vous volez leur futur sous leurs yeux. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité.
Voilà, 1991, le commandant Cousteau appelant ses enfants à asticoter leurs parents pour qu'ils lèvent, pour qu'il y ait cette levée de bouclier pour empêcher ces destructions. 30 ans plus tard, Greta Thunberg asticotant aussi ses parents, appelant les adultes à se réveiller pour laisser un monde meilleur pour les générations d'après. C'est fou de se dire qu'en 30 ans, pas mal de choses ont changé et en même temps, rien n'a changé.
Je pense que les mots de Greta qui sont très forts là, c'est « vous voler notre futur ». Comment est-ce qu'on peut faire ça sans se sentir... c'est même pas coupable, c'est pas assez. Mais non, on peut plus continuer à agir comme on agit. Et sorti de la bouche d'une enfant très mature, qui nous remet à notre place, des adultes, comment est-ce qu'on ne peut pas agir? Moi ça je comprends pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors?
Je pense qu'au quotidien, il faut que chaque personne prenne des meilleures décisions. On ne va pas reparler du plastique, parce que je pense que la paille en plastique, ça y est, on a parlé. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Maintenant, c'est le masque jetable. On est reparti dans le même combat. Moi, j'ai à côté de moi un masque lavable. Ce n'est pas compliqué d'en avoir deux ou trois et de les laver. Donc au quotidien, je pense qu'il faut consommer moins, que ce soit les habits qu'on porte, que ce soit la nourriture, si on a les moyens de le faire, bien sûr, de manger bio. Je pense qu'il faut qu'on soutienne les causes, si on a les moyens de le faire financièrement, c'est de faire ses recherches et trouver une ONG qui nous inspire et les soutenir. Si on est dans la politique ou si on est chef d'entreprise, c'est prendre des actions qui sont relatives justement à notre secteur. Et si on n'a pas de capacité socio-économique de faire quoi que ce soit, eh ben, on va pas en demander plus. Mais je pense que de dire c'est un combat de l'autre. Moi, une copine m'a dit ça un jour, je suis contente de savoir que tu sauves la planète, Céline. Je dis, mais je peux pas être toute seule à le faire. Je pense que c'est à chacun un geste.
Voilà, hommes et femmes compris aussi, vous accordez de longs passages à cette question-là. Les femmes dans l'ombre des hommes, c'était le cas de votre grand-mère, dans celle de votre grand-père, de commandant Cousteau, aujourd'hui. Et on l'entendait avec Greta Thunberg et avec votre voix, Céline Cousteau, ce combat est partagé. En tout cas, faut-il l'espérer. Céline Cousteau, Le monde après mon grand-père, votre livre témoignage vient de paraître chez Fayard. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Et un énorme merci à toute l'équipe de la Grande Table. À la programmation de la Grande Table des Idées, c'est Jean Bulot, préparé par Laura Dutèche-Pérez. À la programmation de la Grande Table Culture, c'est aujourd'hui encore Oriane Delacroix avec Henri Leblanc. Merci beaucoup à Madeleine Martineau pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. À la réalisation, eh bien c'est Thomas Beau avec aujourd'hui Jean Frédérics. Merci messieurs.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Cette semaine sur France Culture, la série documentaire « Cherche la petite bête », Perrine Kervran.
Du chien fidèle au chien errant, de la puce à la punaise, en passant par les animaux d'élevage ou les grands singes, il faut l'admettre, nous vivons en permanence avec les animaux. Alors LSD vous propose d'en savoir plus sur ses voisins si proches, et on espère bien que toutes les espèces seront au rendez-vous de l'autre côté du poste.
LSD, du lundi au jeudi à 17h et 23h sur France Culture et sur franceculture.fr. Et si Van Gogh n'était pas celui que vous croyez? Un fou, un génie, un peintre maudit, aussi ignoré de son temps qu'adulé d'une autre. Un peintre instinctif, méprisant tradition et ambition. Revenons aux lettres, aux toiles. Transparaît un esprit vif, cultivé, érudit, un artiste persévérant, parfaitement au fait du marché de l'art et de la valeur de son travail. La Compagnie des œuvres, Vincent Van Gogh, par Mathieu Garrigou-Lagrange, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.